Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France, 7h43. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le président du Sénat, Gérard Larcher.
Et bienvenue dans ce studio d'RTL. Bonjour. Gérard Larcher. Merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron a eu raison d'ordonner des frappes ciblées en Syrie samedi avec Londres et Washington.
Écoutez, nous avions des preuves et rien ne m'amène à ne pas croire le président de la République.
Aucun doute là-dessus.
Et on ne pouvait pas à nouveau tourner la tête et faire comme si cela n'existait pas. D'autant plus que nous avions eu 6 vétos russes sur la question chimique. Donc, cette action a eu lieu. Est-ce qu'elle solutionne les problèmes ? Réponse non, chacun en convient. Mais elle permet le jour d'après. Et le jour d'après, il doit être à la fois diplomatique, il doit être humanitaire, et enfin faire appliquer la résolution, j'allais dire l'accord international de 1925, sur le refus de toute utilisation d'armes chimiques.
Donc frapper pour frapper, ça a un sens pour vous. Je reprends cette formule, elle est signée de Laurent Wauquiez. Frapper pour frapper, ça n'a pas de sens, a dit le président de votre parti. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde.
On n'est pas sur la même longueur d'onde, ce qui fait qu'il peut y avoir au sein d'une même formation politique des sensibilités qui soient différentes. Et,
sur des sujets aussi importants que ceux-là.
Sur des sujets aussi importants, j'ai ma liberté d'arbitrage, d'analyse, et je considère que l'utilisation de l'arme chimique doit avoir des conséquences, et que la première des conséquences, c'est pas de tourner la tête.
Mais l'objectif de cette démonstration militaire de la France avec ses alliés, c'est de revenir, d'espérer revenir dans le jeu diplomatique. Le jeu en vaut la chandelle, même si c'est un pari.
C'est pas un jeu, c'est une nécessité. Des millions de Syriens, des millions de Syriens dans des camps de réfugiés. Il faut aller dans la Beka au Liban pour se rendre compte de la situation.
Vous avez fait quelques semaines.
Oui, j'ai été sur place. J'avais été sur place en Turquie. J'ai été il y a peu de temps, c'est un autre sujet lié au terrorisme. Car n'oublions pas, ce qu'il faut vaincre, c'est le terrorisme. J'étais au lac Tchad, il y a 3 semaines, chez les réfugiés de Boko Haram. Je peux vous dire que là-dessus, on ne peut pas tourner la tête vis-à-vis du terrorisme. Et la nécessité de la diplomatie, c'est aujourd'hui, entre le processus d'Astana qui ne marche pas, car d'ailleurs Bachar el-Assad ne veut pas du comité constitutionnel préfiguratif, et le processus de Genève qui est enlisé, eh bien c'est le moment de reprendre l'initiative. Et la France peut contribuer à cette initiative, pas en s'alignant, comme je l'ai entendu, sur les seuls États-Unis, mais en parlant avec ce qu'on appelle le small group.
C'est ça, parce que par exemple, la France insoumise, certains aussi chez vous disent il ne faut pas qu'on soit les caniches de Trump. Mais c'est surtout Mélenchon qui l'a répété hier à l'Assemblée, par exemple.
Oui, d'abord, le caniche, c'est un chien hérité d'un chien d'eau. Donc méfions-nous de ces mots-là. Le sujet est trop sérieux pour les jeux de mots de M. Mélenchon.
Oui, donc vous, ça c'est pour le jeu de mots, c'est pour les chiens, bon. Mais sur le fond, il n'y a pas ce risque d'alignement, effectivement, qui inquiète certains en France. C'est pas très.
Vous savez, le risque d'alignement, est-ce qu'il a compté pour ses enfants, Chloré, sans doute. Enfin, est-ce qu'on peut oublier cela ?
Encore un mot. Certains chez vous, dans la ligne de François Fillon, pointent le risque qu'on braque les Russes. Emmanuel Macron, lui, espère au contraire qu'on oblige Poutine à sortir de son isolement diplomatique.
Je crois qu'il faut dialoguer avec les Russes. D'ailleurs, il y a 15 jours, le président de la Commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie était au Sénat. Je l'ai reçu. On a eu un dialogue vrai, un dialogue dur sur ces sujets, mais la Russie est une des clés. N'oublions pas l'Iran non plus. On en a peut parler. L'Iran est aussi une puissance régionale et la tension Iran-Arabie Saoudite, c'est aussi une réalité.
Vouloir retirer sa Légion d'honneur à Bachar el-Assad après tellement d'années, ça a un sens ?
Oui, ça a un sens parce que la Légion d'honneur dans notre pays représente des valeurs. Je rappelle que quand Jacques Chirac lui a donné, on espérait en Bachar el-Assad une espèce de renouveau bassiste plus ouvert en Syrie. Ben, c'est pas la réalité aujourd'hui.
Parfois,
on a pu se tromper. On a pu se tromper. Donc cette décision me semble fondée.
Gérard Larcher, vous avez regardé Emmanuel Macron dimanche soir sur BFM. C'est que le ton inédit de l'émission fait beaucoup parler depuis 48 heures, plus que le fond en fait. Est-ce que vous avez été séduit ?
Écoutez, la forme a tué le fond. On a vu deux de vos confrères d'ailleurs assez contents d'eux-mêmes, parlaient plus de leurs questions que des réponses qui étaient attendues. Et je crois que le président de la République a été le meilleur. Mais en même temps, est-ce qu'il a répondu à toutes les questions que se posaient les Français après un an de présidence ? Je crois vraiment, pour reprendre le titre d'un de vos confrères, que la forme a tué le fond.
Oui, mais la pugnacité aussi, on dit que plus rien ne sera comme avant dans une émission politique ?
Oui, je ne suis pas certain que dans une démocratie, il faut mettre à bas tous les symboles, tous les repères.
Sur le fond, vous en retenez quoi, pardon, de ce qu'a dit le président ?
La première des choses, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets qu'il n'a pas abordés. Pardonnez-moi de les voir en creux. On n'a pas parlé de réduction de la dépense publique, par exemple. On n'a pas parlé de modernisation de l'État. Jamais il n'a évoqué, d'ailleurs, la participation du gouvernement, ni même du Parlement. C'est des sujets qui ont été comme s'il était seul. J'ai eu quelque part un sentiment de solitude, avec en même temps du talent.
Ça traduit quoi chez Emmanuel Macron ? Une tentation de hyper-présidence ?
Une tentation, comme me paraît savoir beaucoup de présidents de la République, un peu du goût de la solitude dans un certain nombre de décisions. Voilà pourquoi il faut un Parlement fort. Et il faut un Parlement qui contrôle. Il faut un Parlement qui débatte.
C'est un avertissement que vous lui lancez ? Attention à l'isolement.
Oh ben c'est un avertissement, c'est clair. C'est pas un avertissement. C'est que la révision constitutionnelle ne pourra pas se faire sur l'abaissement des pouvoirs du Parlement. Autant il faut...
En quoi sont-ils affaiblis ?
Ben écoutez, ayez une lecture attentive du projet du gouvernement envoyé au Conseil d'État sur le fonctionnement, c'est très technique, l'ordre du jour partagé, sur le fonctionnement de la manière dont on peut déposer des amendements, donc modifier un texte. Il y a aujourd'hui une vraie réduction des pouvoirs du Parlement. Et je dis, ça, c'est pas possible. J'ai même lu ce matin que François de Rugy était sur une ligne comparable à moi-même.
Vous dites, c'est pas possible, on va y revenir, mais il ne vous a pas trompé, président Macron, il avait dit au mois de juillet, sauf erreur devant vous, c'était même au Sénat, je veux que le Parlement travaille plus vite. Mais ces dispositions qui vous font
raison,
peur, c'est pour aller
raison.
Plus vite.
Depuis 4 ans, par exemple, nous faisons de la législation en commission au Sénat. C'est-à-dire qu'on raccourcit le délai. Mais est-ce qu'on a réduit pour autant la possibilité pour chaque parlementaire de faire des propositions ? Non. Et il a en même temps dit au Congrès, devant le Sénat et l'Assemblée nationale, je veux des institutions puissantes. Eh bien, je lui dis, Monsieur le Président, c'est ce que nous souhaitons ensemble.
Le gouvernement veut étendre son droit, sauf erreur, de récuser des amendements qui n'auraient pas un lien direct avec le texte en discussion. Si vous dites ça aux Français, ils vont vous dire, oui, effectivement, il faut recentrer le débat, il ne faut pas déposer des amendements qui n'ont rien à voir. Tout ça est assez logique.
C'est ce qu'applique le Sénat, c'est l'article 41 de la Constitution, ce que ne fait pas l'Assemblée nationale, sauf que nous demandons à ce que des amendements qui ont un lien direct puissent être déposés en première lecture, soit par le Parlement, donc les parlementaires, soit par le gouvernement. C'est-à-dire que nous ne soyons pas dans un carcan. Dans un carcan. La liberté du Parlement, c'est le refus du carcan. Ça ne veut pas dire l'acceptation de n'importe quoi. Depuis 4 ans, nous le mettons vraiment en œuvre au Sénat, ça n'est pas simple. Expliquer à un parlementaire que son amendement, il n'a pas droit de discussion, ça n'est pas rien.
Et ça, le gouvernement veut le faire en douce, si je puis dire. Vous dites, le texte qui a été envoyé au Conseil d'État par Matignon n'est pas celui que
n'est pas dont celui
j'avais
sur
eu
lequel.
Donc ils essayent de passer en douce
non,
comme
n'est pas
on
celui
dit dans
sur lequel nous avions, il y a 17 jours, arbitré sous l'autorité du président de la République. Voilà pourquoi je ferai cette semaine appel au président de la République pour que ce texte soit réexaminé. Il peut l'être avant le Conseil des ministres du 9 mai, il peut l'être au cours du débat, car je reste toujours dans l'attitude de quelqu'un qui souhaite voir aboutir une révision constitutionnelle qui devrait, car c'est son objectif, permettre à nos institutions de mieux fonctionner et à la démocratie d'être mieux comprise par nos concitoyens.
Appel sous quelle forme, au président, cette semaine ?
Écoutez, je me réserve la liberté de lui écrire, par exemple.
Par exemple, au hasard. Donc, un courrier cette semaine au président pour dire cette disposition-là, pour réviser le processus législatif, le Sénat
pas que cela,
est contre.
Pas d'abaissement des pouvoirs du Parlement, modernisation du fonctionnement du dialogue exécutif-législatif.
Les 30% de réduction du nombre parlementaire, vous l'avez digéré ?
Je ne suis pas dans un état de digestibilité, c'est le débat qui le dira. Le nombre, pour moi, n'est pas un chiffre sacré. Ce qui compte, c'est la représentation de parlementaires dans chaque territoire de la République.
Dans la même veine, est-ce que vous dites au gouvernement il faut renoncer aux ordonnances sur la réforme de la SNCF, sur laquelle, sur le fond, vous êtes d'accord?
Je suis favorable à la réforme. Je suis favorable, bien sûr, au changement du statut de l'entreprise. Je suis favorable à l'ouverture à la concurrence. Le Sénat l'a voté, d'ailleurs, il y a 2 semaines, et très largement, dans un débat, et on a vu qu'il n'y avait pas besoin d'ordonnance pour ça.
Donc,
le débat doit aller. Il faut aujourd'hui que le gouvernement trouve, avec les partenaires sociaux, une voie de sortie. Il est exact que ce n'est pas le statut des cheminots qui, à lui seul, a conduit l'entreprise dans l'état d'endettement où elle est. Et simplement, il faut prévoir, pour les futurs recrutements, une nouvelle convention collective. J'ai quelques réflexes encore d'anciens ministres du Travail. Ça doit être le lieu du débat.
Mais est-ce qu'il faut que le gouvernement renonce aux ordonnances? Est-ce que vous recommandez au gouvernement pour mener à
Écoutez,
bien cette réforme?
Il les a limités au maximum. Ça peut être un point d'ouverture pendant
d'accord.
le débat.
Dernière question, en quelques secondes, malheureusement, aucun impôt nouveau. Il a fait une promesse, Emmanuel Macron, sur laquelle il sera difficile de revenir. Or, il annonce de l'argent pour les hôpitaux, les EHPAD, la dette de la SNCF qu'il faudra reprendre. Il promet de reprendre de rembourser l'euro la suppression de la taxe d'habitation, 26 milliards. Il est où l'argent?
Écoutez, il va falloir qu'on connaisse la pierre philosophale sur ce sujet. Un mot simplement, parce que le sujet de la dépendance est un sujet majeur, puisque 1 250 000 de Françaises et de Français sont aujourd'hui en situation de dépendance. Ils seront 2 fois plus dans à peu près 25 ans. Et cette réalité-là, il va falloir que nous la relevions. Et il ne suffira pas d'un deuxième jour de solidarité. J'avais dit que j'étais favorable parce que je suis le ministre qui est mis en œuvre cette première journée de solidarité. Mais ça ne fait que 3 milliards. Et vous voyez bien qu'il faudra, dans la prévoyance, dans une meilleure organisation du maintien à domicile. Il y a un très bon rapport d'un sénateur, un médecin, le docteur Bonne, qui est sorti il y a un mois. Et aussi, me semble-t-il, la formule du cinquième risque, si Nicolas Sarkozy a fait demi-tour, j'avais participé au débat, ça n'est pas sans raison. C'est extrêmement difficile de le considérer comme un risque de la sécurité sociale. D'autant qu'on mélange dépendance et handicap, il faut qu'on soit très attentif à ce sujet.
Oui, pour un nouveau jour férié, la 5e branche de la Sécu, c'est pas gagné. Merci beaucoup Gérard Larcher d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir invité.
Le président du Sénat qui réaffirme la nécessité de modernisation des institutions, mais en aucun cas l'abaissement du pouvoir du Parlement. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.